temps où nous voulons ouvrir la parole de Dieu, et c'est le pasteur Samuel Ferriz qui va l'ouvrir pour nous. Que Dieu le bénisse, que Dieu nous donne des cœurs ouverts. Samuel. Le micro, Samuel.
Oui,
Ah, voilà.
et voilà. Vous m'entendez tous?
Oui, ça
Oui.
y est.
Voilà, je suis reconnaissant au Seigneur de me permettre, malgré les circonstances actuelles, de pouvoir être en contact avec les uns et les autres par ce moyen moderne et de pouvoir écouter ainsi et me joindre aux louanges et aux prières des frères et des sœurs. C'est un privilège que nous avons de connaître un si grand Dieu, comme je l'ai souvent entendu au travers des louanges et des prières ce matin. Et je vous propose maintenant d'ouvrir avec moi la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 15. Je vous propose une lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 20. Matthieu, chapitre 15, verset 1er. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il répondit: Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Je voudrais prier un instant avec vous. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole demeure toujours aussi efficace, puissante et tranchante. Et nous avons le désir, Seigneur, que par ton esprit, tu appliques ta parole à nos cœurs. et que nous soyons rendus capables de la vivre selon ce que toi-même tu nous enseignes. Seigneur, nous avons faim et soif de justice et nous te prions que ton esprit nous vienne en aide pour que nous puissions saisir mieux ta pensée et que, marchant selon ton conseil, nous puissions te glorifier par nos vies. Bénis mes frères et sœurs à l'écoute de ta parole. Aide-moi aussi pendant ces quelques instants de méditation que ton esprit nous dirige et nous conduise. Nous te le demandons de tout notre cœur et dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à la méditation ce matin, le titre que je donnerais est celui-ci, une adoration vide de sens. J'ai remarqué, et certainement que vous aussi, mes frères et sœurs, avez-vous pu constater cela, dans l'Église, il a toujours existé une tension entre être et paraître. C'est-à-dire ce qu'elle est vraiment d'une part et d'autre part ce qu'elle paraît visiblement. Paraître, j'oserais dire que c'est soigner l'extérieur, être c'est soigner l'intérieur. Paraître c'est, si vous préférez, l'architecture, la structure, l'organisation, l'image de marque, le corps, l'enveloppe, l'emballage. Mais être, c'est l'esprit et c'est l'âme. C'est l'habitant plutôt que l'habitat. C'est aussi le contenu plutôt que le contenant. Et je m'aperçois, en méditant de jour en jour la parole de Dieu, combien l'Éternel met l'accent sur non pas l'apparence, mais sur ce qu'est réellement notre cœur, notre être intérieur. Une lecture a été faite tout à l'heure dans le psaume que notre frère a lu, et le dernier verset de ce psaume dit que la sainteté de l'Éternel, eh bien, est ce qui convient à la maison de Dieu, et ceci pour la durée des temps. Ainsi donc, nous pouvons être certains les uns et les autres que ce que Dieu apprécie, que ce que Dieu regarde par-dessus tout, ce sont les mobiles de notre cœur. Et c'est l'amour que nous avons pour lui. Et l'amour que nous avons pour lui va se traduire par une obéissance à sa parole, une obéissance non forcée, qui n'est pas le seul résultat des efforts de notre chair, mais une obéissance qui est suscitée par la puissance du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie, car comme vous le savez tous, eh bien c'est l'Esprit de Dieu qui crée le vouloir et le faire en nous. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20 et au verset 7, il est dit, c'est un commandement du Seigneur, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Et il est ajouté ceci, « Celui qui prend le nom de l'Éternel en vain, ne manquera pas d'être puni. » Parfois, nous avons l'impression que ce sont les païens, les incrédules, ceux qui ne connaissent donc pas Dieu, qui seuls prononcent le nom de l'Éternel en vain. Mais pour Dieu, quand nous sommes dans l'indifférence, que notre louange ou que notre adoration est formelle, une sorte de tradition, une sorte de routine, que nous chantons par exemple sans même penser à Dieu ni aux paroles que nous prononçons, si nos prières ou nos louanges sont simplement routinières, toujours avec les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes expressions, eh bien, quand nous prononçons le nom de l'Éternel dans un culte comme celui-ci, sans que notre cœur soit fervent et rempli d'amour pour Dieu, eh bien, ceci est l'équivalent de prononcer le nom de l'Éternel en vain. Et c'est ainsi que notre adoration, alors pour Dieu, devient vide. Elle s'appuie simplement sur une tradition plutôt que d'être l'expression d'une véritable communion avec Dieu et d'un amour sincère pour le Seigneur qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous et qui nous a lavés, purifiés par son sang de tout péché et de toute iniquité. Et la parole de Dieu, notamment dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er, met en relief quelque chose qui est surprenant. Dieu parle à son peuple et il dit exactement ceci: « J'ai en horreur vos assemblées. » Et il dit: « Vos mains sont souillées, vos mains sont sales et ils n'écoutent même pas nos prières, dit-il. » Et bien sûr, il s'adresse là au peuple d'Israël. Et Dieu veut mettre en relief que tout ce qui est une tradition humaine, qui est forgée par une tradition d'homme, eh bien, ne peut pas satisfaire son cœur de père. Et que nous devons donc être délivrés de ces formes extérieures qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient en quelque sorte ce qui en fait la véritable force. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi ce texte dans l'évangile de Matthieu, où nous nous apercevons que Jésus a une confrontation avec les hommes religieux de son époque. Il est dit que des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Jésus se trouvait en Galilée et les scribes et les pharisiens qui étaient de Jérusalem n'avaient pas l'habitude d'officier en Galilée. Ça veut dire tout simplement que comme Jésus avait exercé son ministère en Galilée, et le chapitre qui précède celui dans lequel nous avons trouvé et lu le texte ce matin, met en relief que Jésus, qui se trouvait en Galilée, a accompli des choses formidables. Et les derniers versets du chapitre 14, juste avant ce que nous avons lu, dit ceci: les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. On lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Tous ceux qui s'appelaient pharisiens et scribes en Galilée étaient surpris par l'exercice du ministère de Jésus, aussi par sa parole qu'ils avaient l'occasion d'entendre tous les jours. Mais ils étaient dépassés par les événements parce qu'ils voyaient que la foule de plus en plus nombreuse se rassemblait autour de la personne de Jésus. Alors, probablement par le moyen du Sanhédrin, ils ont fait appel à ceux qui étaient à Jérusalem. À Jérusalem, il y a le temple. À Jérusalem, il y a les écoles judaïques. Et ces gens étaient, semble-t-il, plus capables de contrer le Seigneur Jésus. Enfin, ce sont eux qui pensaient cela. Et quand ils sont arrivés, alors ils ont manifesté en quelque sorte cette sorte de haine qu'il y avait dans leur cœur pour le Seigneur, alors qu'ils n'étaient pas ignorants des enseignements de Jésus. Et les preuves de son ministère exceptionnel et les preuves qu'il était le Messie envoyé de Dieu éclataient au travers des miracles. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir l'évidence. Et ces gens-là, malgré toutes ces preuves qui étaient devant leurs yeux, alors se sont approchés du Seigneur avec cette parole. Ils disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? J'aimerais vous faire remarquer, mes chers frères et sœurs, ici, ces hommes religieux s'opposent à Christ et ils ne cachent même pas que ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est une sorte d'offense qu'ils ressentent de par l'attitude des disciples de Jésus qui ne respectent pas la tradition des anciens. Ils ne sont pas préoccupés par la parole de Dieu. Ils ne sont pas préoccupés par les commandements de Dieu. Ils ne sont pas préoccupés par le fait qu'eux-mêmes s'éloignent de l'obéissance aux commandements de Dieu. Mais ils sont préoccupés par ce fait. La tradition des anciens n'est pas respectée. Vous voyez, il y a dans le livre du prophète Jérémie, je crois que c'est au chapitre 7, quelque chose qui est aussi surprenant. Le peuple s'attache toujours à ce qui est extérieur et le prophète Jérémie leur rappelle ceci. Ne dites pas, c'est ici le temple, c'est ici le temple, c'est ici le temple. Il mettait en quelque sorte l'accent sur le temple, sur les cérémonies, sur les rites, sur tout ce qui est extérieur. Et ils étaient vraiment méprisants en ce qui concerne les commandements de Dieu. Et je voudrais aussi remarquer avec vous que dans un premier temps, le Seigneur ne répond même pas à leurs questions. Mais il répond de la manière suivante. Vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Vous voyez la différence? Les hommes religieux sont offensés parce qu'on ne respecte pas la tradition. Mais Jésus, lui, met l'accent sur le fait que malheureusement, beaucoup de soi-disant disciples, eh bien, eux ne respectent pas le commandement de Dieu, n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et il y a ici quelque chose dedans qui est très important. Voyez-vous, il faut que nous connaissions l'enseignement des pharisiens et également des scribes. Ces hommes, comme je viens de le dire, qui sont tellement attachés à la tradition, cela remonte à une période très éloignée. Le Talmud, qui renferme la tradition juive, enseigne que Dieu a donné la loi orale à Moïse. Et Moïse a confié cette loi morale à de grands hommes en Israël qui, eux, ont fait trois choses. Et j'ai noté ces trois choses-là. La première, c'est délibérer à son sujet, au sujet de la loi, et l'appliquer correctement. Puis ensuite, dans un deuxième temps, ils ont formé des disciples de manière à ce que la prochaine génération puisse recevoir aussi un enseignement au sujet de la loi. Et puis, en troisième lieu, ils ont dû bâtir un mur autour de la loi afin de la protéger. Mais malheureusement, comme cela est fait par des hommes dont le cœur n'est pas pur, alors leur mur a revêtu plus d'importance que la loi elle-même. Et la tradition religieuse est devenue plus importante aux yeux de ces hommes que la parole de Dieu. Je voudrais vous dire que c'est aussi un peu ce que l'on retrouve parfois aujourd'hui dans le monde chrétien et notamment dans le monde évangélique, car il y a souvent des personnes qui sont plus attachées à l'enseignement des familles de leur église ou des églises qui font partie de leur famille religieuse, plus attachées à l'enseignement des hommes, aux formes extérieures, qu'à obéir à la parole de Dieu. Ce qui fait que, bien souvent, ceux qui ont pris une certaine distance avec certaines traditions évangéliques même, et même pentecôtistes, sont parfois jugés, condamnés, parce qu'on estime qu'en agissant de cette manière-là, eh bien, ils ne sont plus dignes de confiance, ils ne sont plus dignes d'intérêt. Mais ce qui doit rester dans notre cœur comme quelque chose qui est très important, c'est que même si une structure extérieure change, la parole de Dieu, elle demeure toujours la même. Et ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est que nous apprécions chaque jour davantage l'enseignement du Seigneur, que nous goûtions avec délice aux paroles qui sont prononcées par sa bouche et qui sont retranscrites dans la Bible afin d'y prêter une attention vraiment importante et que nous puissions évoluer, grandir dans sa connaissance. Et si chacun fait cela, à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Non pas avec une forme hypocrite, mais vraiment avec un cœur qui est ouvert et qui est rempli de reconnaissance pour le Seigneur. Pour que vous ayez une idée de ce qu'était la tradition des Juifs, j'ai pu découvrir cela il n'y a pas bien longtemps, à ma grande honte d'ailleurs, parce qu'il aurait fallu que je m'intéresse davantage à ces choses bien avant. Mais par exemple, quand ici, dans le texte, il est question de laver les mains, quand on utilise ce verbe-là, il faut savoir que cela n'a rien à voir avec l'hygiène physique, bien que l'hygiène physique a aussi une grande importance. Ça pourrait paraître curieux que dans les circonstances que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, je parle de cela, n'est-ce pas? Et je voudrais simplement vous dire que le livre du Lévitique met en relief l'importance de l'hygiène. Et Dieu n'est pas contre l'hygiène, bien sûr. Mais il y a une signification bien plus profonde. Les ablutions qui sont mises en relief dans la parole de Dieu ont justement pour application la chose suivante, c'est d'être purifié, je dirais, de toutes les contaminations rituelles. Par exemple, dans la loi, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui touchait un cadavre ou qui touchait un païen, eh bien, il devait faire des ablutions parce que sinon, il était considéré comme impur. Mais voyez-vous, dans la parole de Dieu, et notamment justement dans le livre du Deutéronome, Dieu met l'accent sur la chose suivante. Il dit que ce qu'il demande au peuple, c'est qu'il le serve avec un cœur pur. Et dans ce même passage qui se trouve dans le livre du Deutéronome, Il dit avec un cœur qui est circoncis. C'est-à-dire que si on sert Dieu sans que le cœur n'ait été vraiment régénéré, transformé, changé, purifié, lavé par l'eau de la parole, eh bien, tout ce que nous pouvons faire est vide de sens par rapport à l'Éternel. Et c'est dans ce piège qu'étaient tombés les pharisiens. Alors, j'ai relevé par exemple ceci. Un certain rabbi enseigne qu'un démon dont le nom est donné, alors moi je ne connais pas ce nom, en tous les cas la Bible n'en parle pas, mais lui il donne ce nom-là, il l'appelle Shipta, et il s'attache aux mains des gens durant le sommeil. Et si quelqu'un ne se lave pas les mains, alors il entre dans le corps par le moyen des mains souillées qui vont manipuler la nourriture. Vous voyez jusqu'à quel point sont arrivés ces hommes dans leur hypocrisie et ce qu'ils sont capables de faire. Une autre forme de tradition rabbinique, c'est qu'en Israël, ils disent s'il y a un résident qui mange sa nourriture après s'être lavé les mains, écoutez bien la suite, eh bien, peut avoir, lui, l'assurance d'obtenir la vie éternelle. Alors, ça peut faire sourire, n'est-ce pas? Parce que nous, nous savons que, précisément, ce n'est pas le fait de se laver les mains qui nous donne la vie éternelle, mais gloire soit rendue à Dieu, c'est parce que notre cœur a été lavé par le sang précieux de Jésus, purifié aussi par l'action de son esprit dans notre vie et dans notre cœur, qu'il a mis un sceau par son esprit en nous et une conviction, une certitude que nos yeux verront le Seigneur, non pas par nos mérites, mais à cause de l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur. Je voudrais ajouter cet autre témoignage. Un certain rabbi qui était en prison et à qui on a donné de l'eau, eh bien, ça n'est servi pour se laver les mains au lieu de la boire parce qu'il a déclaré qu'il préférait mourir plutôt que de transgresser la tradition. Voyez comment le cœur de l'homme est vraiment tortueux et comment il peut tordre le sens de l'Écriture. Et Jésus s'est donc trouvé confronté comme cela à ces pharisiens qui ont dit « Mais tes disciples ne se lavent pas les mains. » Et ce qui les offusque, c'est qu'ils ne respectent pas la tradition des anciens. Alors, Jésus va leur répondre sur le terrain de la parole de Dieu. Mais vous, pourquoi vous ne respectez pas la parole de Dieu? Et il donne un exemple. Un commandement du Seigneur que nous connaissons tous et que Jésus cite, c'est « Honore ton père et ta mère ». Et il ajoute « Celui, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Jésus les met en face de ce que l'Écriture dit. Or, comment eux ont essayé de contourner ce commandement de Dieu? Vous savez, il n'y a rien de plus terrible que d'essayer de contourner la parole de Dieu pour pouvoir vivre et faire ce que bon nous semble. Quand nous sommes égocentriques et que nous pensons qu'à nous-mêmes, au lieu de rechercher la gloire de Dieu, alors nous essayons par tous les moyens de contourner la parole de Dieu qui a une grande importance et que nous devons laisser pénétrer dans notre cœur pour qu'elle y fasse une œuvre en profondeur. Et comment est-ce qu'il contournait ce commandement? Eh bien, Jésus l'explique en disant, vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous vous rendez compte? Vous savez, il existait en effet une loi qui permettait à un juif de dire tous mes biens sont une offrande à l'Éternel. Mais à partir de ce moment-là, alors il pouvait très bien éviter de donner à ses parents ce qu'il aurait pu leur accorder pour les soutenir, pour les aider. Vous savez que nous sommes dans une période qui est vraiment difficile et les médias nous rapportent que bien des personnes d'un certain âge sont quelquefois mis comme ça loin de la famille dans des EHPAD qui font tout, bien sûr, pour rendre la vie de ces gens le plus agréable possible. Mais vous savez aussi qu'il y a une responsabilité dans la parole de Dieu des enfants par rapport aux parents. Mais ce n'est pas le but de ma méditation ce matin. Mais je voudrais simplement souligner, vous voyez, l'égoïsme, l'esprit tordu, le cœur tortueux de ces gens qui disaient, bien, puisque mes biens sont une offrande à Dieu, je ne peux pas le donner à mes parents, je ne peux pas leur accorder l'honneur qui leur revient. Mais écoutez bien, cette manière d'agir pouvait aussi être retournée dans le sens que s'ils avaient besoin, eux, de cet argent, alors il leur suffisait de déclarer ceci est corban pour en fait le soustraire à Dieu et l'utiliser pour eux-mêmes. Voyez, il y avait une forme d'hypocrisie. Et d'ailleurs, vous avez remarqué comment le Seigneur lui-même, sans embâche, va droit au but et leur parle avec une certaine condamnation en leur disant « hypocrite ». Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Là, nous avons vraiment besoin de nous arrêter un instant, chacun d'entre nous, afin de faire le point devant le Seigneur. Et puis, vraiment, d'analyser les sentiments de notre cœur, la manière d'agir et de nous comporter. Il n'y a rien qui soit plus désagréable à l'Éternel que le fait d'essayer de contourner les commandements de Dieu pour tirer un profit pour nous-mêmes. Je voudrais simplement vous dire, Jésus, dans ces textes que nous avons choisis, apparaît d'une part comme le Dieu rempli de compassion, de bonté, de miséricorde. Mais en même temps, et ça c'est quelque chose qui peut nous paraître contradictoire, mais Jésus apparaît aussi comme le Dieu qui est capable de condamner ce qui est mal et ce qui est injuste, y compris évidemment ceux qui pratiquent l'injustice. Et c'était le cas de ces hommes-là. Quand par exemple la foule est venue vers Jésus, et nous avons cité cela tout à l'heure, amenant des malades en grand nombre, et il demandait simplement de pouvoir toucher le bord de son vêtement. Peut-être avait-il entendu parler de cette femme atteinte d'une perte de sang qui avait touché le bord du vêtement de Jésus et qui avait été guérie. Et ils viennent pour réclamer la même chose. Jésus sait très bien que cette foule aussi ne recherche que des intérêts personnels, qu'ils sont égoïstes, qu'ils ne le cherchent pas pour ce qu'il est. J'ai entendu plusieurs prières ce matin qui disaient « Nous te louons pour qui tu es ». Mais eux le cherchaient non pas pour ce qu'il était, ils le cherchaient pour recevoir quelque chose de lui. Et Jésus n'a jamais refusé cela. Quand ils avaient faim, il leur a multiplié les pains et les poissons pour les nourrir. Quand ils étaient malades, il a également étendu ses mains et il les a tous guéris. Et le texte que j'ai lu tout à l'heure dit que tous ceux qui le touchèrent furent guéris, sans exception. Voilà la bonté, voilà la miséricorde de Dieu. Mais quand il voit que pas seulement par égoïsme, mais aussi par méchanceté, des gens ne pratiquent pas la justice, mais s'éloignent de la justice. Alors, il apporte une condamnation. Et cette condamnation, elle est vraiment mise en relief dans le texte que nous avons lu. À un moment donné, il appelle justement cette foule qui s'est tenue à l'écart pendant cet entretien qu'il avait avec les hommes religieux. Il les appelle et il leur dit « Écoutez et comprenez ». Je me suis laissé dire que cette expression traduite par « écoutez et comprenez », ça veut dire « écoutez avec une grande attention ». Parce que ce n'est pas que ce qu'il allait leur dire ou leur enseigner était difficile à comprendre. Jésus, quand il parle, un enfant peut le comprendre. Mais ce qui est difficile, c'est d'accepter ce qu'il dit pour le vivre et marcher selon sa parole. Et c'est la raison pour laquelle il dit « Écoutez et comprenez, écoutez avec attention, ne laissez pas tomber à terre cette parole. » Parce que quand on la serre précieusement dans le cœur, selon une déclaration d'un homme de Dieu dans l'Ancien Testament, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Eh bien, quand il voit qu'il y a une certaine malhonnêteté, un manque de droiture d'une manière évidente, alors à ce moment-là, eh bien, il prononce cette parole de condamnation. Et non seulement il dit à cette foule d'écouter et d'être attentif, mais chose curieuse, même les disciples se sont alors approchés plus près du Seigneur et ils ont dit, mais Seigneur, sais-tu que les paroles que tu as prononcées ont scandalisé les gens? Et la réponse de Jésus est frappante. Il dit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. » Vous voyez, il n'y a pas là, je dirais, un essai de gagner à tout prix par la tolérance ou en abaissant la force de sa parole. Mais il dit tout simplement ce que le Père n'a pas planté, eh bien, seront déracinés. Cela veut dire qu'il y aura donc une condamnation. Et je dois vous dire, mes chers frères et sœurs, que ceci nous interpelle. Il faut que nous demandions au Seigneur de plus en plus que nous ayons les mêmes sentiments du Seigneur, c'est-à-dire une grande compassion pour les gens qui ne sont pas avertis et qui ont besoin de découvrir son amour, sa puissance et sa grâce. Mais en même temps, que nous ayons aussi une fermeté contre le péché, l'hypocrisie, tout ce qui est, je dirais, contraire à la volonté de Dieu, ce qu'il n'approuve pas. Et il dira d'ailleurs à ses disciples, « Ne comprenez-vous pas ces choses-là? Êtes-vous, vous aussi, sans intelligence ?» Il dit, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui souille l'homme. Mais ce qui entre dans la bouche, il dit, ça va dans les lieux secrets, et même quand c'est entré dans le corps, eh bien, cela est purifié par l'organisme mais cela ne peut pas souiller le cœur. Et là, eh bien, nous sommes mis en face d'une chose qui est importante. Dieu connaît nos pensées. Dieu connaît tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Rien n'est caché à ses yeux. Nous ne pouvons connaître que l'extérieur. Nous ne pouvons entendre que les paroles qui sortent de la bouche de l'un ou de l'autre. Mais Dieu, il connaît tous les mobiles qui sont dans notre cœur. Et ceci doit produire en nous une sorte de crainte de l'Éternel. Entendez-moi bien. Mes frères et sœurs, cela ne veut pas dire une peur de Dieu, mais un respect de Dieu. Un respect de Dieu au point que nous allons, eh bien, saisir sa parole comme étant pour nous la chose primordiale, un trésor inestimable auquel nous allons attacher notre cœur. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que là où sera notre trésor, là aussi sera notre cœur? Et si la parole de Dieu est le trésor de notre cœur, alors nous allons faire corps avec elle. Et c'est le seul moyen de vraiment honorer et glorifier Dieu. Les véritables adorateurs, en esprit et en vérité, doivent avoir cette disposition de cœur-là, qui consiste à se soumettre dans un amour complet et total, suscité par l'Esprit de Dieu dans notre cœur, vers le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons lui être agréables. Alors, j'aimerais simplement conclure cette courte méditation en vous disant, mes frères et sœurs, que le bien suprême pour chacun d'entre nous, c'est de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Non pas une sanctification de la chair externe seulement, mais une purification et une sanctification de notre cœur et de notre être intérieur. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il nous aide les uns et les autres à vivre selon ses commandements, à marcher par l'Esprit, et nous n'accomplirons pas la volonté de la chair. Que Dieu vous bénisse.
Merci à notre frère pour cette parole et que nous voulons recevoir pleinement dans notre cœur et qu'elle puisse œuvrer vers son travail de sanctification en chacun d'entre nous pour glorifier le nom du Seigneur. On va prier le Seigneur, lui demander sa grâce maintenant. Seigneur, merci pour ta parole qui est cette lampe indispensable à nos pieds, cette lumière sur notre sentier. Merci, Seigneur, parce que oui, nous voulons écouter et comprendre, comme tu le dis, Seigneur, afin qu'elle fasse corps, oui, avec nous et nous avec elle, que nous puissions, ouais, nous soumettre à cette parole qui est bénissante, qui est sanctifiante, qui est guérissante. Seigneur, nous te louons, purifie encore nos mobiles, nos pensées, nos cœurs, au plus profond, Seigneur, et que nous, l'extérieur ne puisse pas souiller, Seigneur, mais que vraiment, il sorte de notre cœur une véritable louange, véritable adoration qui vient d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur vrai. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. C'est vrai que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Viens-nous en aide, Seigneur, par ton esprit, chaque jour de notre vie. Bénis ton peuple, bénis l'Église, bénis les Églises, bénis notre frère Samuel, Seigneur, et toute sa famille et l'Église sur Avignon. Nous te prions que là aussi ta grâce, ton amour, ta puissance soient leur partage, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, glorifie-toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà donc, comme annonce, donc nous aurons des réunions par Zoom jusqu'au samedi 29 inclus. Donc le 30, nous nous retrouverons en espérant, le 30 janvier, en espérant que tous ceux qui sont malades soient guéris, que l'on puisse se réunir et ensemble célébrer notre Dieu. Voilà, ça nous manque de nous retrouver. Mais merci Seigneur pour ces moyens qu'il nous donne, ces moyens modernes. Voilà, que le Seigneur soit béni. Merci à Samuel pour ce message. Et à bientôt. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous.